Les forêts tropicales, toutes celles et ceux qui ont mis un jour un pied dans ces forêts ne les ont jamais oubliées, tellement ces écosystèmes sont puissants pour les sens et riches en diversité végétale et animale. Les forêts tropicales sont des milieux en perpétuelle évolution qui représentent la moitié des forêts du monde. Elles abritent des milliers, des millions d'espèces même, des populations qui dépendent directement d'elles. Elles jouent un rôle majeur pour le climat et le carbone. Pourtant, ces forêts sont gravement menacées en raison de la pression exercée par les activités humaines. Des scientifiques se sont réunis autour d'un ouvrage qui rappelle cette urgence de les protéger. Et c'est l'objet cet après-midi de notre Terre au Carré avec nos invités Marie-Ange Gobieng, Patrick Blanc et Pliniociste. Bonjour à tous les trois.
Bonjour
Mathieu. Et bienvenue Pliniociste, vous êtes directeur de l'unité de recherche forêt et société au CIRAD. C'est le centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. Et vous êtes le directeur donc de la publication de ce livre, Vivre avec les forêts tropicales, publié chez Muséo Éditions. Patrick Blanc, vous êtes botaniste, c'est vous qui signez la préface de ce livre qui nous intéresse aujourd'hui. Et puis Marie-Ange Gobieng, vous êtes écologue forestière au CIRAD, vous êtes basée actuellement au Costa Rica. On va se retrouver dans un instant pour découvrir ces forêts et leur diversité avec les messages, toutes les questions des auditeurs, franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Bonjour Camille Cronier.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous, bonjour à toutes.
On passe au vert à 14h30.
Oui, avec un petit big up aujourd'hui, une compilation hommage à vous toutes qui vous mobilisez partout en France et dont on a pu relayer l'action ici.
14h45, dernier épisode de la série de Guy Van Til consacré au chantier des JO Écolo de Paris 2024. Et puis dans la saga des humains, Evelyne Heyer nous parlera aujourd'hui de l'évolution d'Homo sapiens dans le futur. Voilà pour le sommaire de l'émission, réalisé par Valérie Ayestaraï, préparé aujourd'hui par Anna Massardi avec à la technique Anne-Laure Cochet.
Mathieu Vida, la Terre au carré. Sur France Inter.
La forêt tropicale ne couvre que 7% de la surface du globe, mais recèle 70% des espèces de la faune et de la flore mondiale. Mais aujourd'hui, cette biodiversité est menacée et il est devenu urgent de réaliser l'inventaire le plus exhaustif possible de la forêt primitive.
Son avenir est terriblement noir et dramatique. Elle est en train de disparaître. Moi, j'ai eu la chance de la voir dans ses formes primaires, majestueuses. Je doute que la génération suivante puisse la voir.
La voix du biologiste Francis Allais, c'était en 1999, au sommet des arbres du Gabon, et Vivre avec les forêts tropicales, c'est donc un livre dont on parle cet après-midi, ça paraît chez Muséo Éditions avec le CIRAD, 52 chercheuses et chercheurs, donc spécialistes de cet écosystème. Avec vous, on en parle donc Pliniociste, Marie-Ange Gobieng et Patrick Blanc. Pliniociste, alors c'est quoi l'idée de ce livre? Parce que vous avez choisi finalement un angle assez original, hein?
Oui, parce que effectivement, il y a beaucoup de livres. D'abord, on voulait faire un livre grand public. Et on a regardé un petit peu ce qui était sorti sur les forêts tropicales pour le grand public et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de beaux livres effectivement avec des belles photos, mais qu'on parlait beaucoup de la forêt tropicale, ouais. Mais que les hommes, les humains y étaient absents. Et ce livre justement, le principal message c'est de dire qu'il faut réapprendre à vivre avec les forêts tropicales et que nous avons un destin commun, ouais. Avec les forêts tropicales et que donc l'homme, les humains sont un facteur clé pour la préservation de ces forêts.
Donc ce sont ces liens, hein, ces interactions finalement. Exactement. Entre humains et arbres qui vous intéressent. Marie-Ange Gobieng, les forêts tropicales sont habitées et on l'oublie complètement, nous, vu d'ici en tout cas. Hein.
Nous avons une vie en effet très occidentale, parce ouais. que en France, par exemple, les forêts ne sont pas habitées. Les Français ne dépendent plus directement des ressources forestières et c'est pas du tout le cas. Dans les tropiques, plusieurs femmes et hommes dépendent quotidiennement des forêts tropicales pour leur habitat, pour leur subsistance, pour leur nourriture. Donc c'est vraiment des forêts qui sont habitées mais qui constituent une ressource première proche nécessaire pour une grande partie des populations forestières.
Ouais, on arrive à l'évaluer ou pas le nombre de personnes ou de millions de personnes qui dépendent directement, Pliniociste,
plus d'un milliard de
forêts. Ouais, partout sur la planète. Hein. Ce qui paraît peu finalement, hein, face aussi à l'ampleur de ces forêts, parce qu'il y en a quand même sur tous les continents quasiment.
Oui, mais c'est que la moitié des forêts du monde, donc c'est ouais. quand même beaucoup de personnes.
Patrick Blanc, c'est quoi finalement, vous, ce qui caractérise le mieux la forêt tropicale? Vous revenez d'où d'ailleurs? La dernière forêt dans laquelle vous étiez, c'était où?
Là, c'est dans les forêts des montagnes de l'Est de la Tanzanie, là, puisqu'on a, ouais. on a eu l'envie quand même, malgré le confinement, là, en janvier, de passer le mois de janvier. Donc, enfin, ça me manquait un petit peu trop depuis plus d'un an, ouais. de ne pas bouger. Donc, voilà, de regarder. C'est très intéressant, parce que ces forêts d'Afrique de l'Est. Personne ne se doute qu'il reste des grandes forêts en Afrique de l'Est, puisque tout le monde pense que c'est avant tout une zone sèche en dehors du bassin du Congo.
Ouais. Or, et que derrière le rift, il n'y a plus rien. Ouais.
Voilà, et alors quand vous avez quantité de fragments de forêt, malheureusement, extrêmement menacés, parce que la pression humaine est là. Justement, ce que moi, je peux parler du livre facilement, parce que je ne l'ai pas écrit, je me suis contenté de faire la préface. Ouais. Et c'est vrai que ce qui est vraiment admirable dans ce livre, c'est que chaque page en elle-même est un chapitre. C'est-à-dire que ils ont pris le biais de présenter les choses, de montrer les dangers, d'avoir parfois des avis, mais jamais des choses sans appel et tranchées. Ça reste ouvert. C'est pas du tout un bouquin qui condamne tout le monde. Et donc vous avez en fait dans ce livre un nombre de chapitres bien supérieur à ce qu'il y a. Et j'ai trouvé, même moi, j'ai appris quantité de choses en lisant ce livre.
Mais alors vous, ça évoque quoi, la forêt tropicale, justement? Parce que c'est un milieu qui marque énormément, quand même. C'est un milieu où les sens sont complètement sollicités tout le temps.
Bien sûr, j'y vais depuis l'âge de 19 ans, à une époque où c'était beaucoup plus difficile de voyager. Pour moi, c'est la fascination de l'état de vie de base et qui doit se perpétuer, si vous voulez. C'est la forêt tropicale, c'est toutes les formes de vie, c'est que ce soit animale, végétale ou humaine. C'est, vous rentrez dans une forêt tropicale, vous sentez que tout se passe là, on se sent protégé en plus, puisque l'avantage du sous-bois, mais qui travaille essentiellement sur le sous-bois, c'est quand même protégé par la canopée, donc par tous ces arbres sur 30 à 50 mètres de hauteur. Donc vous êtes dans un milieu constant qui est protégé, donc tout est ouvert, vous sentez les odeurs, vous entendez les sons qui varient suivant les moments, évidemment, de la journée ou de la soirée. Vous voyez, puis parfois des rencontres avec des gens qui sont très surprenantes. Je sais, en Malaisie, tomber tout d'un coup sur un orangasli, un monsieur avec sa sarbacane. Vous voyez des choses surprenantes qu'on n'attend pas, parfois des bestioles qu'on n'attend pas non plus, et puis surtout des plantes qui sont sous vos yeux. Et c'est vrai que c'est là où tout le travail de recherche est vraiment important, c'est que pour regarder, pour savoir regarder, il n'y a pas à tortiller, c'est vraiment utile d'avoir déjà une formation. Moi, dans une ville, je ne vois rien par rapport à l'architecture si je ne suis pas avec quelqu'un qui m'explique ce qui est intéressant à voir. Et donc, voilà, à nouveau, ce qu'il y a d'admirable dans ce bouquin, c'est que quand on le lit, on n'a qu'une envie, c'est d'y aller, mon Dieu, mais c'est comme ça, c'est aussi varié que ça, et c'est la réalité de la forêt.
Alors c'est cette diversité, évidemment, qu'on découvre vraiment, parce que on a l'impression que la forêt tropicale, c'est une chose, un seul écosystème avec des températures plutôt chaudes, un milieu humide. Or c'est très différent selon les endroits où on se trouve. Marie-Ange Gobieng, vous êtes originaire du Cameroun, je crois.
Oui.
Vous travaillez en ce moment au Costa Rica.
Oui.
Entre l'Afrique et justement l'Amérique centrale, est-ce que les forêts tropicales se ressemblent beaucoup ou pas?
Les forêts tropicales sont différentes et on le présente notamment dans le livre, parce qu'on a justement ces trois chapitres sur les forêts d'Amérique latine, les forêts africaines et les forêts d'Asie. Et on voit par exemple que 60% des forêts africaines sont des forêts sèches.
Oui.
Et donc du coup,
c'est assez contre-intuitif. Hein,
ce qui est assez contre-intuitif, et c'est très intéressant parce que c'est des forêts qui sont vraiment sensibles au changement climatique.
Oui.
Et puis on découvre aussi que les forêts africaines sont constituées de grands arbres, c'est des géants, il y en a qui font, les Moabis font jusqu'à 70 mètres, c'est plus grand que l'Arc de Triomphe par exemple. Ouais. Et donc c'est une particularité des forêts africaines aussi, c'est qu'elles sont beaucoup moins diverses comparées aux forêts d'Amérique centrale et latine et des forêts d'Asie. Quelque chose d'intéressant aussi qu'on montre dans le livre, alors les forêts on les connaît parce que c'est des arbres, c'est de la végétation, depuis les herbacées jusqu'aux grands arbres. C'est des animaux, depuis les insectes de sous-bois et de la canopée jusqu'aux grands mammifères. Et du coup, un point de vue important que l'on présente dans ce livre, c'est que la forêt, c'est aussi des hommes qui ont vécu dans ces forêts, qui vivent dans ces forêts et qui, dans le cas des pays africains, ont été sortis dans les années 1900 pour le contrôle de l'arrivée colonialiste. Donc c'est toutes ces populations aujourd'hui qui doivent apprendre à vivre en dépendant de ces forêts, mais en n'étant pas les seuls à décider de leur avenir et à décider de la gestion future, durable, que l'on peut y appliquer.
C'est aussi le berceau de l'humanité, finalement, en Afrique, la forêt.
La forêt sèche, oui. C'est le berceau de l'humanité.
Et c'est une forêt qui a été donc transformée relativement tôt par les activités humaines.
C'est une forêt qui a été transformée dès les années 2500. Enfin, il y a 2500 avant notre ère, les Bantous, donc les ancêtres, vivaient dans la forêt. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand on rentre dans la forêt, en grattant un peu, on trouve des restes de poteries, de pierres gravées, et aussi ces forêts ont été enrichies avec des espèces qui ont été utilisées, domestiquées. C'est l'exemple du palmier à huile ou du prunier d'Acrylos edulis. Donc, c'est des espèces qui ont été, c'est des espèces qui ont été introduites. Et donc, c'est des forêts qui ont été modifiées et qui aujourd'hui ont la présence une physionomie qui est le résultat d'une évolution naturelle, mais impactée par l'interaction de ces hommes. Donc ces hommes font complètement partie de l'écosystème, et dans notre livre on présente justement la beauté de cette interaction et la nécessité de ne pas séparer les décisions prises sur ces écosystèmes des populations qui en dépendent.
Plignociste Denis sur franceinter.fr demande pourquoi est-ce qu'on ignore autant de choses sur la forêt africaine précisément, parce qu'on pense toujours à la forêt amazonienne qui semble justement attirer beaucoup l'intérêt et l'attention, et cette forêt pourtant extrêmement importante à l'échelle du globe, on la connaît peu.
Je ne suis pas sûr que scientifiquement on connaît moins bien les forêts africaines que les forêts amazoniennes, mais c'est vrai que dans l'actualité, on parle beaucoup plus de la forêt amazonienne parce que pour le moment, elle est beaucoup plus menacée que la forêt du bassin du Congo. Mais j'ai envie de dire qu'on a peu parlé, par exemple, des forêts d'Afrique de l'Ouest, de la Côte d'Ivoire. Je rappelle que la Côte d'Ivoire, en 1960, était couverte de 14 millions d'hectares. Et aujourd'hui, il n'y en a plus que 2 millions. Assez dégradé, et que cette forêt a disparu pour planter du cacao. Donc, on parle plus de l'Amazonie parce que c'est une déforestation relativement récente et massive. Et on parle effectivement de l'Amazonie et de l'Indonésie, et un petit peu moins de l'Afrique centrale. Mais nous, scientifiques et forestiers, on attache une grande importance à ces forêts, notamment aux forêts sèches d'Afrique, mais également à la forêt du bassin du Congo.
On en parlera, Patrick Blanc. Hélas, des forêts du bassin du Congo, parce qu'elles intéressent beaucoup la Chine, les Européens aussi. Donc, hélas, je crains que dans très peu d'années, on parle beaucoup de la déforestation du bassin du Congo, ce qui est très triste parce qu'il y a des zones entières qui sont biologiquement, aussi bien par rapport aux plantes qu'aux animaux, encore très mal connues. Donc, et puis qu'on arrête de dire que l'Afrique est plus pauvre en espèces que Amérique ou Asie. Non, simplement, en Afrique, il y a eu surtout beaucoup de recherches sur les arbres parce que les Occidentaux étaient intéressés, évidemment, par le bois pour le couper, mais en fait moi je sais que dans les sous-bois d'Afrique on décrit sans arrêt de nouvelles espèces de rubiacées, sans arrêt. Enfin,
c'est
la famille du café. Ouais. La famille du café. Alors bien sûr, en Éthiopie, vous avez les caféiers sur les hauts plateaux, enfin les forêts de montagne d'Éthiopie. Mais vous avez quantité d'autres espèces dans cette famille, et vous avez des milieux, par exemple, les bas-fonds marécageux en forêt en Afrique sont des zones sublimes et extrêmement riches en espèces, plus extraordinaires que en Asie ou en Amérique. Donc, je crois qu'il faut arrêter de se battre sur le nombre d'espèces. C'est simplement un énorme écosystème forestier qui demande encore à être étudié et qui est malheureusement en mauvaise passe.
Allez, on se retrouve dans un instant autour de cet ouvrage « Vivre avec les forêts tropicales et les messages des auditrices auditeurs de la Terre au carré » sur franceinter.fr.
Mais le train est déjà arrivé.
C'était Cassidy sur Inter.
La Terre au carré. Sur France Inter.
La déforestation de l'Amazonie est un processus en deux temps. D'abord, les arbres sont coupés et mis à sécher. Et lorsque je parle de la déforestation du 21e siècle, je ne parle pas de petites familles allant dans les bois avec une scie. Je parle de tracteurs avec de grosses chaînes arrachant les arbres par la racine. Ce que nous observons à présent, avec nos données satellites, est le deuxième temps de la déforestation. Nous voyons les piles de bois mises de côté il y a plusieurs mois prendre feu. Donc ces feux ne sont pas en train de brûler des résidus dans un champ de récolte ou de l'herbe dans un pâturage. Ce sont les bûches qui ont été mises à sécher au soleil pendant des mois qui brûlent.
La voix de Doug Morton, le scientifique de la NASA, pour parler de la déforestation en Amazonie, plénioscite Marie-Ange Gobieng et Patrick Blanc, nos invités, pour parler donc des forêts tropicales. Plénioscite, justement, cette déforestation aujourd'hui, c'est vraiment l'échelle industrielle qui a complètement modifié la façon, justement, dont on agit sur cet écosystème.
Tout à fait, c'est un phénomène qui est plutôt récent, hein, qui date des 30, enfin disons des 40 dernières années. Je rappelle qu'entre 1990 et maintenant, on a perdu 400 millions d'hectares de forêt tropicale.
400 millions.
Et c'est encore sous les tropiques que la déforestation continue à un rythme assez alarmant, alors que dans les pays plutôt tempérés, c'est le contraire qu'on voit, c'est que la forêt gagne un peu plus de terrain chaque jour.
400 millions, ça fait quoi 400 millions de...
Ça fait 13 millions d'hectares, 13 millions de terrains de foot par an. Voilà, ouais. Plus ou moins, vu qu'on est dans l'euro 2021.
Oui, mais c'est bien, ça nous donne une image, mais elle est même encore difficile à imaginer tellement c'est un...
D'autant qu'on n'aura jamais assez de joueurs de football pour, pour occuper ces terrains. Donc, mais c'est à chaque fois, si on prend l'exemple de l'Amazonie, mais on peut également prendre l'exemple de l'Indonésie, c'est à chaque fois des programmes soutenus par les gouvernements. Dans les années 70, pour reprendre l'exemple de l'Amazonie, c'était le slogan du gouvernement militaire qui voulait occuper l'Amazonie qui représente 60% du territoire brésilien.
Ouais.
Et le slogan, c'était des terres sans hommes pour une terre, des hommes sans terre pour une terre sans hommes. Et ouais. Donc, ça a été programmé, planifié. Et en Indonésie, c'était la même chose. On a essayé de désenclaver sous Suharto l'île de Java, où il y avait une grande densité de population. Et on a fait des programmes de colonisation, hein, des îles de Sumatra et Bornéo, qui avaient des densités de population très, très faibles.
Vous avez vécu à Bornéo pendant plus de 10 ans, c'est ça, Plinio?
C'est ça, oui. J'ai travaillé.
Donc, ça fait partie des lieux de la planète où on voit vraiment les effets de cette déforestation.
Tout à fait. Moi, dans les années 90, c'était d'abord l'exploitation du bois, puis il y a eu une demande du marché de pâte à papier de la Chine, qui a fait qu'on a déforesté massivement pour planter de l'eucalyptus, pour faire de la pâte à papier. Et puis, dans les années 2000, ça a été le charbon.
Pourquoi ?
Parce que le sous-sol de Kalimantan Est, de Bornéo Est, une grande partie est couverte de charbon qui affleure vraiment le sous-sol. Et donc aujourd'hui...
Pour le récupérer, il faut couper les arbres.
Il faut couper les arbres, creuser. Ouais. C'est des mines à ciel ouvert, mais aujourd'hui, les bateaux qui transportaient les bois aux scieries sont remplacés par des bateaux, des barges de charbon.
Deux questions. Une d'Élodie, d'abord sur franceinter.fr, qui nous demande les causes principales, si on peut les lister, de cette déforestation. Et Agnès ajoute, quelles sont les réglementations qui protègent les forêts tropicales? Est-ce qu'il y en a une réglementation ou plusieurs qui sont valables partout dans le monde, ou est-ce que c'est chaque pays, Marie-Ange Gobieng?
Et le cas du Costa Rica est vraiment intéressant pour ça. Hein.
Le cas du Costa Rica est intéressant. Donc déjà, les principaux drivers de la déforestation dans le monde tropical, donc c'est l'agriculture intensive, industrielle ou familiale. Donc, en Amérique latine, en Amazonie, ce sera plus de l'agriculture industrielle. Et en Afrique, ce sera plus de la pression de l'agriculture familiale. Donc, les principales causes, c'est cette agriculture intensive, c'est les plantations industrielles, les plantations d'EVA, les plantations de canne à sucre. En Afrique de l'Ouest, comme disait Plinio, de palmier, comme disait Plinio tout à l'heure, le cacao et aussi le café, c'est des cultures qui sont malheureusement associées à de la déforestation et aussi l'exploitation minière. Donc c'est un élément assez important de la déforestation sous les tropiques. Alors est-ce qu'il y a un cadre qui régit? Alors le cadre, il est inexistant dans plusieurs pays tropicaux, il est vraiment inexistant. Et le cas du Costa Rica est intéressant, comme le disait Mathieu, parce que la force du Costa Rica, c'est d'avoir fait cette loi en 1996 qui régit l'exploitation et la conservation des systèmes forestiers. Donc depuis 1996, tout ce qui est reconnu comme forêt ne bouge pas. On n'a pas le droit de toucher à cette forêt. On peut l'exploiter, bien sûr, suivant un cadre qui est très contraint par des mesures environnementales, la protection de la biodiversité, la protection des espèces à haute valeur écologique, et aussi la nécessité de laisser sur place des arbres par an. Elle est régie et donc par les personnels du ministère de l'énergie et de l'environnement, et elle est suivie par le Système national des aires de conservation. Donc c'est des institutions gouvernementales qui protègent, qui sont chargées de la conservation et de la protection de ces forêts, et cela est appliqué justement par les différentes populations costariciennes. Ça veut dire que si il y a un endroit dans le pays où il y a une exploitation illicite, c'est les populations mêmes qui avertissent le gouvernement. Donc cette loi, elle est très forte, elle est très présente au Costa Rica.
Mais il n'existe pas donc des sortes de, je sais pas, de coordination internationale avec quand même certaines mesures minimum, certaines protections pour toutes les forêts.
Alors, il y a une initiative française qui s'appelle la lutte contre la déforestation importée. Vous savez que l'Europe importe du soja, de la viande, qui sont les principales causes de déforestation, notamment en Amérique latine. Et il y a cette initiative française qui voudrait effectivement se donner un sorte de label ou de traçabilité des produits importés par la France et à moyen terme par l'Europe, qui pourrait être certifié non issu de la déforestation. Donc il y a une réglementation un petit peu internationale qui est en train de naître. Quand elle sera appliquée, quand il sera possible de l'appliquer, parce que effectivement, la traçabilité, c'est quelque chose qui est assez difficile à mettre en place.
Mais c'est vrai qu'ici en Europe, on s'offusque contre la déforestation dans ces pays lointains, sauf qu'on est directement concerné parce qu'on est acteur aussi de cette déforestation dans notre façon de vivre. Et ça, c'est une chose aussi importante à rappeler, parce que le café, le cacao, le bois qu'on fait venir pour nos meubles,
l'huile
tout ça,
palme,
voilà,
l'huile de palme,
ça participe à cette destruction.
Oui, les forêts tropicales sont très sensibles au changement climatique. Donc notre façon de vivre, notre façon de consommer va impacter les forêts tropicales. Et en plus, les forêts tropicales, comme vous le dites, on utilise ces surfaces tropicales pour produire des commodités. Alors c'est le bois, c'est l'EVA, c'est le cacao, c'est le café, qui ne sont pas à destination seulement des pays tropicaux, mais qui sont à destination mondiale. Et avec la croissance de la population, et il paraît qu'on va croître encore plus, cette demande, elle est plus pressante. Donc il faut ajouter l'interaction directe des populations, et puis cette demande de produits qui sont tropicaux, mais qui abreuvent le marché international.
Ouais. Patrick Blanc, vous disiez, moi je vais dans la forêt tropicale depuis l'âge de 19 ans, je crois. Vous l'avez vu beaucoup changer?
Ça dépend des zones. Évidemment, à Bornéo, par exemple, je me souviens être allé au Mont Kinabalu en 76, et même quand je suis retourné en 84, je voyais les limites du parc national déjà complètement grignotées pour être remplacées par les acacias mangium pour faire de la pâte à papier. Donc, y a des zones où, effectivement, vous voyez les reculs. À côté de ça, là, en Tanzanie, j'ai été très agréablement surpris quand on est allé. Toute une zone près de la côte où il y a des grottes avec certaines plantes endémiques comme le Saint-Paulien, la violette du Cap qu'on trouve dans tous les supermarchés, qui vient en fait d'une seule minuscule grotte proche de la côte tanzanienne, et bien là, on reconnaissait même pas, on était allé en 96, donc 25 ans après, on reconnaissait même pas les lieux, tellement la forêt avait repoussé autour. Et pourquoi? Parce qu'il y avait une intervention du gouvernement, mais surtout, ce qui est très important, comme évoquait Marie-Ange, intervention des gens locaux qui ont su que c'est un endroit à protéger parce que des visiteurs pouvaient venir, et du coup, la forêt était entièrement revenue. Donc, il y a heureusement quelques cas, mais globalement, C'est assez dramatique parce qu'il y a, quand on parle de réglementation internationale, il y a par exemple un travail remarquable qui est fait par tous les scientifiques qui font leur rapport pour l'UICN, donc pour la conservation de la nature, où chaque espèce est considérée dans sa fragilité, non pas au niveau d'un pays, mais au niveau de toute son aire qui passe à travers les pays. Et le drame qu'il y a par rapport au monde vivant, c'est qu'il est censé appartenir au pays et non pas être un patrimoine mondial. Mais ça, c'est absolument, mais c'est scandaleux, je suis désolé. On compare l'évolution d'espèces qui ont mis des millions d'années à évoluer par rapport à des gens qui sont dans un endroit depuis entre 2 siècles et 2000 ans au maximum. Donc comment on peut comparer le fait que le monde vivant qui a évolué pendant si longtemps puisse appartenir à des gens qui sont là depuis si peu de temps? Donc vraiment, il faut qu'on avance de plus en plus vers un système de conservation mondiale et de protection et d'interaction, parce que les hommes existent.
Par contre, ce que j'entends dans vos propos et ce qui est assez réjouissant, c'est qu'il y a quand même une résilience possible assez rapide finalement, même si ça demande quelques décennies, mais on voit des effets quand même très vite, pour peu qu'on laisse évidemment cet écosystème en paix.
Alors attention, des espèces peuvent disparaître complètement,
bien sûr.
Globalement, ça peut aller vite.
Allez, on se retrouve dans un instant. D'autres questions pour vous sur franceinter.fr.
France Inter. La Terre au carré.
14h31, Camille, on passe au vert et un hommage aujourd'hui pour votre dernière chronique de la saison.
Oui, un hommage à Robert, Corinne, Ivy, Jean-Michel, Frédéric, Amandine, Christophe, Annie, Edmund.
Mais qui sont-ils ?
Et tellement d'autres, des étudiants, des actifs, Mathieu, des retraités, des gens comme tout le monde, des gens de la vie, des personnes qui se bougent partout en France et qu'on prend plaisir à faire connaître ici à la Terre au carré. Est-ce que vous vous souvenez peut-être de Wilfried qui, depuis le mois de mars, refleurit avec un tas de bénévoles la vallée de la Roya, dévastée par une tempête à l'automne dernier.
Mais en fait, on s'est aperçu que les gens, ils avaient que du gris, que du noir, et même si on arrivait à faire descendre un petit peu, entre guillemets, le niveau de boue et de limon devant chez eux, ils n'avaient pas de projection vers l'avenir. Et eux, leur vie, c'était être dehors. Donc on s'est dit, il faut trouver quelque chose qui les amène à se réapproprier un petit peu leur village et leur jardin et leur extérieur. Et quoi de mieux que de passer par les fleurs et dire, on va semer ensemble, et à la fois l'espoir et à la fois des choses réelles.
C'est vraiment extraordinaire. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Le village revire, le village reprend le dessus. Moi, toute ma vie jusqu'à ma mort, je penserai à eux. Je penserai à eux. C'est ouf, c'est un truc de ouf, c'est grandiose.
Voilà l'émotion de Marie-Noël, habitante de Braye-sur-Roya, et dont le jardin est aujourd'hui multicolore. Mais il n'y a pas que des histoires qui finissent bien, malheureusement, comme celle de ces nombreux propriétaires en Ariège qui se sont fait voler leurs arbres, les 300 épicéas, par exemple, de Christophe.
C'était des arbres qui avaient 58 ans. Ils faisaient quasiment 40 mètres de haut. Ouais, ils étaient immenses. Le 3 mars, j'ai été prévenu comme quoi nous avait volé tous ces arbres-là. Voilà.
C'est-à-dire que tous vos arbres ont été tronçonnés ?
Sans exception. Il n'en reste pas un seul.
Et l'enquête est toujours en cours, mais ils se sont tous mobilisés, ces habitants, pour alerter. Des collectifs de citoyens, d'habitants donc, qui alertent ou qui se battent pour ou contre tel ou tel projet. Il y en a sur tout le territoire et toute génération confondue. Un exemple de lutte tient dans le Pas-de-Calais, avec un projet de serre tropicale géante qui exaspère Jean-Michel, retraité remonté.
C'est totalement stupide, c'est totalement incohérent de construire une serre tropicale géante dans le nord de la France. Ce n'est pas en important des bouts de biodiversité des tropiques de ci, de là, et en rassemblant ça dans une serre dans le nord de la France, qu'on va protéger la biodiversité tropicale au niveau de la planète. Tu vas arrêter le délire.
Et ce n'est qu'un exemple parmi les nombreuses mobilisations contre des entrepôts géants, des contournements routiers, où la parole d'ailleurs est aussi donnée à ceux qui sont en face.
Qui, comme moi, défendent ce projet, on les caricature. On les appelle des bétonneurs, des égoïstes qui sacrifient les générations futures. Cette caricature est insupportable.
Voilà, c'est le principe. Tout le monde s'exprime, beaucoup au téléphone cette année, vous l'entendez, Covid oblige, mais on peut aussi m'envoyer des enregistrements, parfois comme Ivy, étudiante mobilisée à Angers avec les jeunes des marches du climat.
On lâche rien et on continue de se mobiliser. peut-être pas sous la forme de manifestations, sous d'autres formes, on a la réflexion de comment on se réinvente et comment on continue.
La pandémie n'a pas trop entamé leur motivation. Et en ce qui concerne Edmund et Frédéric, un Anglais et un Marseillais, elle leur a même donné l'idée de marcher 880 km entre Marseille et Paris pour ramasser des masques.
Écoutez, on a fait 10 km aujourd'hui. Fred, on a ramassé combien ?
Oh là, je dois en être à 300 et encore à un moment, je peux avancer. Quoi.
On vient de traverser Lyon. Et Lyon, waouh, c'est super propre. Ah, c'est nickel chrome.
Ce qu'on souhaite, nous, c'est rencontrer les gens et surtout aussi se faire porte-parole de tous ceux qui ramassent. On voit des jeunes, on voit des vieux qui vont aux champignons, qui vont avec leurs enfants, qui vont tout seuls, qui vont faire des jogging et qui ramassent et qui ne soient pas désespérés. Nous, on porte la voix de tous ces gens-là et on donne des idées aux autres.
Auprès de mon arbre, je vivais heureux.
Et voici une autre porte-voix, porte-voix d'un arbre, Amandine, qui a sauvé de l'abattage sa pouplie chérie, un peuplier noir situé en plein milieu du village de Boudes-sur-Suippes, dans la Marne.
Elle est vraiment énorme, hein. Donc c'est un arbre qui impose le respect. C'est vrai que quand on est à son pied, on est subjugué.
Des arbres, hein, des putois aussi qu'on défend, des biquettes sauvages un petit peu envahissantes. Il y a plein d'histoires et mon petit coup de cœur de l'année, bah, il est pour Annie et Michel Pécheras, couple de Dordogne dont je vous ai parlé plusieurs fois,
oui.
Condamnés à boucher la mare du jardin parce que les grenouilles faisaient trop de bruit.
Ah mais là on est un peu dans le caca.
Ah oui, là, c'est terrible, mais vous rendez compte ? Le lieu de vie comme il était magnifique.
C'est les bruits de la campagne, hein. Il y a des vaches, il y a des chevaux, il y a des cochons, il y a des grenouilles, il y a des oiseaux, il y a plein de bruit.
Qu'est-ce qui se passe ? Sur notre planète, ça va plus, quoi. Nous, on aime la nature, on est comme ça. Qu'est-ce qu'on va devenir ? Vous le savez, vous ?
Sacré Annie et Michel, ils vont bien. Hein et comme eux, comme tous les autres, continuez, s'il vous plaît, de nous faire remonter ce qui se passe chez vous. On est là pour relayer, pour confronter, pour raconter. D'ailleurs, on va ouvrir, Mathieu, oui. Un répondeur à la fin du mois d'août. On vous donnera le numéro à la fin de l'été, tout simplement, juste avant notre retour, pour nous parler de vos initiatives, pour pousser des coups de gueule ou juste, pourquoi pas, nous faire écouter la mer. Vous pouvez aussi nous envoyer un mail via la page de La Terre au Carré. Des enregistrements sonores aussi, si vous le voulez. Bref, bougez-vous et dites-le
voilà.
Nous.
Toutes vos luttes pour la planète. Voilà, et on en parlera avec un nouveau rendez-vous à partir de la rentrée. Camille Passauvert à réécouter sur franceinter.fr.
Patrick Blanc, vous avez vu réagir sur les vols d'arbres. Hein, c'était une réalité en Ariège. Et la serre géante aussi, le projet de serre géante dans le
oui.
Pas-de-Calais.
Oui, oui, bon, les choses sont évidemment pas simples. Si on parle de serre géante en utilisant uniquement un chauffage à partir d'énergie fossile, c'est des choses compliquées. Mais quand on voit tous les hangars pour tous les trucs d'internet, etc., qui dégagent la chaleur à n'en plus finir, il y a quantité de sources d'énergie qui sont quand même réutilisables et qui pourraient justifier dans le nord une serre tropicale. Parce que c'est quand même bien pour les gens du nord de la France qui n'ont aucune idée de ce que peut être une forêt tropicale.
Ah, vous défendez ce genre de projet, vous ?
Tout dépend comment on trouve, d'où vient l'énergie. Je vous dis, il y a tellement d'énergie qui est perdue et qui pourrait être réutilisée pour chauffer, je veux dire, pourquoi pas ? Si ça peut être, ce qui est scandaleux évidemment, c'est de n'utiliser que de l'énergie fossile pour ça. Mais il y a beaucoup de biais pour utiliser de l'énergie qui n'est pas fossile. Moi, je pense que, comment vous voulez motiver les gens pour... Tout ne se passe pas qu'en virtuel, hein. La vie n'est pas que virtuelle. C'est très beau de voir des très belles émissions, on est bien d'accord, mais voir tout d'un coup dans une serre ce que sont ces plantes, tout ce gradient du sous-bois à la canopée, les épiphytes, c'est important que les gosses, les adultes, les gens motivés puissent voir ces choses-là.
Bon, c'est un vrai débat, en tout cas.
Autrement.
C'est une vraie question qui est de société aujourd'hui. Quel est votre point de vue là-dessus, Marie-Ange Gaune-Bieng?
Moi, ce que je pense, c'est que comme nous l'a dit Lavoisier il y a quelques années déjà, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Et en ce moment, qu'est-ce qu'on transforme ? C'est les écosystèmes naturels, et notamment les écosystèmes forestiers. Je pense qu'il y a, je comprends bien l'objectif de la connaissance, mais il y a un problème en ce moment, c'est que on n'évolue pas à l'énergie non restreinte. Donc, je pense qu'on devrait vraiment restreindre. Il y a des serres tropicales en France, donc il y a moyen de se déplacer du nord de la France en région parisienne où on peut voir ce que c'est que l'écosystème tropical. Je pense qu'à un moment, comme on a réussi à le faire pendant pendant l'époque Covid, il y a des événements qu'on peut virtualiser et qu'on va devoir virtualiser. Je pense qu'il y a besoin vraiment de réduire notre impact sur les écosystèmes et limiter les consommations d'énergie. Ça fait partie d'un moyen de pouvoir limiter pouvoir réduire notre empreinte climatique. On va pas changer nos habitudes en une année, même en deux années, mais je pense vraiment qu'il faut une réflexion sur qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est intéressant et comment on peut réduire notre empreinte sur la planète, et notre impact climatique.
On a de quoi discuter. En tout cas, les avis sont très partagés sur la question.
Sûr.
Allez, suite de notre discussion dans un instant. Pride is the devil. Think it got a hold on me. Pride is the devil. And left so many RIP. Pride is the devil. Think it got a hold on me. Pride is the devil. Yeah. Terrified, paranoid, I put you over everything to fill the void. And when you're gone, will I have anything or will I be destroyed? Terrified, paranoid, I put you over everything to fill the void. And when you're gone, will I have anything or will I be destroyed? Yeah. Bright lights pass me in the city, it's emergency. I'm thankful cause I made it past my 30s, no one murdered me. Still remember vividly the nigga that pulled a gun on me. I'm petrified but moving like I got no sense of urgency. Pride make a nigga act way harder than he really be. Pride hide the shame of city, cut off all utilities. Pride hide the pain of growing up in hell and poverty. Pride make a nigga feel a way that you and follow me. Make a nigga flash a thousand like he hit the lottery. Make a baby mama make shit harder than it gotta be. Make you have to take the bitch to court to see your prodigy. Make you have to use your last resort and pull a robbery. Pride be the reason for the family dichotomy. Got uncles and some aunties that's too proud to give apology. Slowly realizing what the root of all my problems be. It got me feeling different when somebody said they proud of me. Pride is the devil. I think it got a hold on me. Pride is the devil. And it left so many RIP. Pride is the devil. I think it got a hold on me. Pride is the devil. I think it got a hold on me. Pride is the devil. And it left so many RIP. Pride is the devil. I think it got a hold on me. Pride is the devil. Pride is the devil. C'était G. Cole.
La Terre au carré. Le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard sur France Inter.
Maintenant, quand tu entres dans cette forêt, c'est chez nous. C'est notre forêt, c'est notre terre. Cela nous rend joyeux. Ici, il y a de l'oxygène pour respirer qui vient de ces arbres. Et tout ce qu'on mange vient d'ici. Les champignons, les fruits.
Voilà un exemple de la forêt du Congo, France 2, en mars dernier, pour reparler des forêts tropicales avec nos invités et des questions des auditeurs. Camille.
Jean qui nous demande sur franceinter.fr à quoi va ressembler la forêt tropicale de demain, clignociste.
Là. Vaste question.
Ouais.
Elle va changer. C'est sûr qu'elle va changer de l'effet des changements climatiques et de l'effet aussi des utilisations anthropiques. Il y a de forts risques que beaucoup de forêts tropicales, par le changement climatique, deviennent des forêts beaucoup plus sèches qu'elles ne le sont aujourd'hui.
Mais pardon, mais une forêt tropicale sèche, tout à l'heure on en parlait pour l'Afrique, mais c'est quoi? C'est plus une forêt tropicale? Enfin, pour...
Si, parce que et c'est justement l'objet du premier chapitre du livre. On explique que quand on parle de forêt tropicale, on a tous dans notre imaginaire l'idée de la forêt tropicale humide, qui est autour de l'équateur. Mais plus vous éloignez de l'équateur, du nord au sud, plus les précipitations sont de plus en plus faibles. Et donc là, la végétation s'est adaptée et on appelle, et les forêts deviennent de plus en plus sèches. Donc on passe par de la forêt tropicale humide avec de la forêt tropicale semi-décidue, c'est-à-dire qu'une partie des arbres, pendant la saison sèche, perdent leurs feuilles pour réduire leur transpiration. Et puis, plus on s'éloigne de l'équateur et plus on se rapproche de
la savane arborée. Cette transformation de la forêt dans le futur, ça va entraîner aussi une perte de diversité des espèces, fatalement ou pas ?
Vraisemblablement, et puis surtout, ça va, comment dirais-je, aggraver encore plus l'effet du changement climatique. Le climat va vraiment se changer de façon très 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 importante.
Esteban nous demande si on peut avoir quelques pistes pour que nous puissions, nous citoyens à notre échelle, protéger ces forêts, Marie-Ange Gobieng.
C'est très important et c'est très intéressant comme question parce que nous pouvons tous faire quelque chose. Alors nous n'aurons pas l'impact, un impact visible tout de suite. Nous pouvons, comme je disais, les forêts tropicales sont sensibles au changement climatique. Donc tout ce que l'on peut faire à notre niveau pour réduire, et maintenant on le sait, nous sommes assez conscients du changement climatique. Donc tout ce que nous pouvons faire pour réduire notre empreinte climatique aura un impact sur la conservation, sur la longévité de forêts tropicales et d'espèces tropicales. Nous pouvons, dans les pays occidentaux, nous avons... Nous consommons plusieurs commodités tropicales, donc on peut faire l'effort sur quel effort, d'où viennent ces denrées tropicales, comment est-ce qu'elles sont produites, est-ce qu'elles sont associées à une amélioration des conditions de vie des producteurs, est-ce qu'elles sont associées à la conservation des forêts. Alors je sais qu'on n'a pas le temps d'aller dans le supermarché, de voir si c'est fait à l'huile de palme ou non, mais du coup, je pense qu'un appui aussi qu'on peut faire, c'est nos gouvernements, nos dirigeants, nous avons tous un ministère de l'Environnement. Comment est-ce que ces gouvernements motivent et participent à... Comment est-ce que ces gouvernements mettent en place des incitations pour que nous puissions consommer des produits qui n'impactent pas les forêts tropicales et surtout les populations? Donc, réduire notre impact et aussi travailler à l'échelle des produits que nous consommons. C'est quoi leur origine? Comment est-ce qu'ils ont impacté les forêts tropicales? Et comment est-ce qu'ils ont impacté la vie et les conditions de vie des populations qui en dépendent?
Donc, on a ce rôle à jouer de traçabilité aussi sur les produits que nous consommons. Allez, on se retrouve dans un instant. Bonjour Guy Vanctil.
Bonjour à toutes et à tous.
Dernier volet aujourd'hui de la série de reportages sur la préparation des JO de Paris 2024. Alors que ceux de Tokyo débuteront le 23 juillet, retour dans le jardin des Vertus à Aubervilliers où une mobilisation occupe pacifiquement les parcelles censées laisser place au solarium d'une future piscine olympique.
Ouais, après la ZAD, bienvenue à la JAD pour un jardin à défendre. Sauf qu'avec des mots d'ordre comme des pommes, pas un solarium, ou des potirons, pas du béton.
Vous le faites bien.
Ouais, les jadis sont pas vraiment des black box. Si une majorité des jardiniers a d'ailleurs signé l'accord avec le Grand Paris Aménagement pour compenser les 19 parcelles détruites, d'autres refusent le recul des jardins face au béton. Que ce soit pour les JO ou pour la construction d'un futur écoquartier pour jeunes cadres dynamiques dans le fort d'Aubervilliers qui, eux, profiteront du solarium. Alors, dans ce coin du jardin ouvrier, on peut croiser tout un tas de personnes venues défendre ces rangées de poireaux. Des simples riverains jusqu'aux militants écolos et même quelques anti-JO s'y relaient en essayant de réinventer un autre rapport à la ville et à l'environnement.
C'est un petit coin d'air pur au milieu des tours d'immeubles.
Les jardins ouvriers d'Aubervilliers, ce bout de campagne au milieu du paysage urbain de Seine-Saint-Denis est menacé.
Menacé par la construction du complexe aquatique des JO 2024.
Un centre nautique avec solarium, centre de fitness et plusieurs saunas et hammams.
Alors là, il y a du bois qui arrive. C'est un voisin qui nous envoie un camion entier de poutres.
Ah bon ?
De bois de chantier pour construire des choses.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des réseaux de solidarité et de soutien?
Oui, ouais, bien sûr qu'il y a des réseaux de solidarité. En fait, la plupart des personnes extérieures à la lutte, il leur suffit de peu d'éléments pour adhérer pleinement à la défense des jardins. En fait, on n'a pas fait grand-chose, quoi. Ouais. On a écrit un texte ou deux. Voilà.
Un appel à l'occupation.
Avant, on avait écrit un texte qui s'appelle « Nous étouffons », qui dit bah, « voilà, on étouffe ici, on ne veut pas que ces jardins soient détruits, on étouffe de colère ». Et il a fallu d'un texte et ça a pris comme une traînée de poudre parce qu'on n'est pas dans de la com.
Et c'est vrai que depuis tout à l'heure là qu'on est là, il y a 3-4 personnes qui sont arrivées comme ça, l'air de rien. Bonjour, je viens du 92, là, disait l'un. Est-ce que je peux prendre quelques photos et filer un coup de main, disait l'autre.
Ouais, mais tu sais, c'est pas nous qui avons fait le travail, c'est Grand Paris Aménagement qui a révolté tout le monde en fait. D'ailleurs, personne n'a jamais réussi à justifier la destruction, quoi. On parle de la piscine, de l'importance de la piscine, mais.
JO.
Oui, mais j'ai jamais entendu personne parler de l'importance du solarium qui va détruire les jardins, vraiment, personne.
D'où la naissance de cette JAD, quoi. C'est jardin à défendre. C'est pas la ZAD, c'est la JAD.
La JAD, ouais. En fait, le masculin pluriel de jardin à défendre devient un féminin singulier quand on le raccourcit. C'est joli.
Ouais, vous nous les passez, nous on prend et puis on les pose là. Ça vous va?
On fait
un pose, tas. On fait un tas.
Vas-y.
Non, parce que vous n'allez pas pouvoir tout sauter ici.
À Aubervilliers, 18 parcelles des jardins ouvriers sont menacées
pour construire une partie du nouveau complexe aquatique olympique. Un choix que les jardiniers ne comprennent pas. Pour eux, c'est une partie du patrimoine d'Aubervilliers qui est menacée.
Vous partez, monsieur?
Il y a ce travail.
Ouais.
J'ai pas mangé.
Non, mais moi j'ai l'habitude. J'étais restaurateur, alors manger après le service, alors j'ai l'habitude.
C'est quoi votre prénom?
Brahim.
Brahim?
Oui. Moi, c'est la petite parcelle, là, moi, franchement, moi, ça me suffit. J'ai 82 ans. Mais quand je viens ici, c'est le paradis. Ça me... Moi, j'adore ça. Moi, c'est ma deuxième vie. Ça me fait du bien.
Alors vous avez une petite parcelle qui met juste au bord de la zone expulsée, si j'ai bien compris.
Voilà.
Vous allez avoir la première loge sur le solarium.
Oui, exactement. Non, qu'ils fassent la piscine encore, d'accord. Mais franchement, je vois pas un solarium. Je vois pas pourquoi ils nous embêtent, nous.
Et du coup, il y a plein de monde maintenant, alors, qui vient.
Plein,
les
oui.
Jadistes.
Moi, j'ai déjà été invité plusieurs fois, même pour manger, tout ça. Moi, je les encourage. J'espère qu'ils vont réussir. Ils sont même en train de construire des baraques. Ouais, c'est génial.
Salut Christian.
Comment va, toi?
On va laisser passer les gens. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour
madame.
C'est des habitués du jardin?
Ah oui, 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 c'est des habitués. Ils ont un jardin.
Bonjour madame, vous êtes passé?
Excusez-moi. Ah, c'est super. Nous, ce que nous voulons ici, c'est des giromons, des potirons et pas du béton. On n'en veut pas. On veut garder nos petits jardins. C'est formidable. On peut avoir un peu de nourriture pour nos enfants, nos petits-enfants. C'est un passe-temps, c'est agréable. On entend les petits oiseaux. Moi, j'ai un nid de pie dans mon jardin. Il y a des perruches. Moi, je ne partirai pas. Je vais m'enchaîner à mon cerisier. Ils m'emmèneront avec mon cerisier. Mais c'est pareil. Hein,
c'est quoi votre prénom, sans aller?
Ginette.
Ginette.
Oui.
Et vous, ça fait longtemps que vous cultivez des jardins ouvriers?
35 ans. Et ça fait 62 ans que j'habite le quartier. C'est pas d'aujourd'hui.
Et donc, du coup, vous soutenez la mobilisation, vous?
Ah oui, je soutiens. 100%. 100%. 100%. Il y avait la manifestation le mois dernier, là, de la mairie d'Aubert jusqu'ici. Bon, j'ai pas pu faire tout parce que j'ai un cancer et j'ai eu la Covid. Mais j'ai marché le plus possible. J'ai quand même marché jusqu'au 4 chemins. Et là, il y avait du monde. Mais ça fait du bien, ça fait chaud au cœur. C'est beau. Mais là, j'ai compris qu'ils occupent leur jardin, voilà. Nos vertus, jour et nuit.
Pour résister aux belteuses, quand elles vont venir.
Parce que...
On soutient.
Ah, merci. Ah, ça, c'est gentil. Tiens, je vous ferai la bise si on pouvait.
Ah, il y a le jeune homme qui passe là en levant le poing.
C'est bien. Non, il faut qu'on se soutienne.
Bon, bon courage, Ginette.
Merci beaucoup.
Et bon jardinage aujourd'hui, alors.
Merci
absolument. Au revoir.
Aubervilliers, bienvenue à la JED, un reportage donc à retrouver sur franceinter.fr et que vous pouvez également entendre en version longue cet été dans le rendez-vous que vous nous donnez tous les samedis à 18h, Give.
Ouais, et on commence ce samedi à l'île de la Réunion, mais on repassera par la JED d'Aubervilliers juste avant les JO de Tokyo.
Donc ça commence samedi et ça s'appelle Je reviens du monde d'avant. Donc à samedi, Give.
À samedi.
Allez, encore 3 minutes avec nos invités plignocistes Marie-Ange Gobiang et Patrick Blanc pour parler des forêts tropicales à l'occasion de la parution de ce livre donc chez Muséo Éditions avec le CIRAD. C'est quoi votre forêt du futur, vous, Patrick Blanc, alors?
Ouh là là, on va essayer d'être optimiste. Bon, déjà, il faut savoir quand même que les forêts ont bougé. Elles ont commencé il y a à peu près, on estime, autour de 400 millions d'années. Ça fait bien longtemps, puisque les pauvres prémices de l'homme remontent à quelques petits millions et l'homme actuel à 300 millions à peu près. Donc, rien du tout. Donc, les forêts, évidemment, existaient avec des plantes qui n'avaient rien à voir. Hein, c'était des grands lycopodes, des grandes prêles. Bon, on va pas refaire toute l'histoire. Les forêts ressemblent un peu à ce qu'elles sont actuellement depuis, on va dire, le Crétacé, depuis la fin des dinosaures, depuis 60, 70 millions d'années, probablement, surtout depuis un peu moins, depuis 5, 7 millions d'années. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles n'ont pas arrêté de régresser et de revenir. Et surtout, il y a quand même les événements du Quaternaire, c'est-à-dire donc très récemment, depuis 2 millions d'années, où il y a eu sans arrêt, au moins une dizaine, enfin une quinzaine de fois même, des période glaciaire et interglaciaire où ça se réchauffe. Donc quand c'est glaciaire, vous avez évidemment jusqu'à 30% de la surface de la Terre qui est couverte d'eau sur plusieurs kilomètres d'épaisseur. Donc, les forêts régressent. Et après, quand il fait chaud pour très peu de temps, généralement, c'est seulement 10 000 ans de chaud par rapport à 80 ou 90 000 ans de froid. Et là, les forêts reviennent. Donc, les forêts du futur, qu'est-ce que déjà par rapport à ces cycles de 100 000 ans, c'est difficile de dire. Alors maintenant, il y a l'impact de l'homme avec non seulement la destruction, mais les fluctuations climatiques.
Oui.
Donc, voilà, c'est pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est que la perte en espèces des forêts est faible en espèces. En surface, c'est monstrueux. En espèces, ça reste faible. Donc, ça veut dire que quelque part, si on agit vraiment, tout est encore possible. Hein, c'est quand même très très important de le considérer, tout n'est pas foutu.
Allez, une dernière question Camille.
C'était juste une Thierry qui voudrait savoir s'il existe un seuil plancher au-delà duquel aucune exploitation de déforestation ne sera plus autorisée à l'avenir sur la planète. Qu'adviendra-t-il du peu qui restera, Plignocite ?
Sur la planète, je ne sais pas, mais sur l'Amazonie, des chercheurs se sont penchés et ils estiment que si on dépasse les 20-25% de la surface totale de l'Amazonie, on aura des changements climatiques très, très fort et une savanisation au sud de l'Amazonie.
Merci beaucoup en tout cas à tous les trois. On signale donc cet ouvrage « Vivre avec les forêts tropicales » pour en découvrir toute la diversité. Votre préface Patrick Blanc et c'est donc chez Muséo Éditions avec le CIRAD. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui.
Merci
dans
à vous
la
beaucoup.
Terre au carré. On termine avec la saga des humains.
France Inter. La Terre au carré.
Bonjour Evelyne Heyer.
Bonjour Evelyne.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, c'est votre dernière chronique de la saga des humains et vous avez décidé de vous tourner vers l'avenir.
Oui, j'ai évoqué notre passé lointain, des premiers sapiens africains jusqu'à notre aventure sur l'ensemble de la planète, les rencontres qui ont parsemé cette odyssée, notamment avec nos cousins Néandertal et Denisova maintenant disparus, mais aussi des points plus contemporains. J'ai rappelé que nous sommes tous cousins et nous partageons nos ancêtres. Il est temps de réfléchir à quelques pistes pour l'avenir.
Alors allons-y. Est-ce que déjà on évolue encore, Evelyne ?
Eh ben oui, comme toutes les espèces vivantes, nous évoluons et évoluerons. À chaque génération, des mutations, des nouveautés génétiques apparaissent par hasard dans notre génome. Pour l'essentiel, elles ne changent pas grand-chose, mais une infime partie d'entre elles auront un effet positif et seront retenues par la sélection naturelle. Mais quelle sélection naturelle ! Grâce à l'amélioration de la qualité de vie depuis 200 ans dans les pays riches, on a l'impression que la sélection ne joue plus beaucoup. Quasiment tous les enfants atteignent l'âge adulte alors que presque la moitié mourait il y a 200 ans. En fait, maintenant, la sélection naturelle joue sur la fertilité, la reproduction. On voit déjà que dans certains environnements pollués, certains chromosomes Y, plus fragiles, entraînent une infertilité masculine. On le voit bien, la sélection naturelle dépend de l'environnement dans lequel nous vivons, celui que nous nous créons.
Alors, est-ce qu'on peut s'amuser, Evelyne, à un petit exercice de prédiction pour imaginer l'avenir ?
On ne sait pas prédire dans quelle direction ira l'évolution, parce que ça dépend à la fois du hasard des mutations et de l'environnement dans lequel nous vivrons dans le futur. Deux éléments bien difficiles à prédire. Mais on peut rappeler quand même quelques règles. Nous n'aurons pas les jambes plus courtes car nous marchons moins, ni un sixième doigt pour mieux utiliser les smartphones. Et s'il est difficile de prédire à long terme dans quelle direction nous amènera l'évolution, il y a au moins un aspect humain qui ne changera pas.
Lequel alors ?
Eh bien, notre passé nous enseigne que nous sommes une espèce qui a beaucoup migré. Nous nous distinguons de nos cousins, les primates non humains, qui sont en quelque sorte restés sur place. En résumé, nous avons tous des ancêtres migrants. La migration fait partie du succès de notre espèce. Un futur sans ces échanges est irréaliste.
Alors quoi d'autre ?
Eh bien finalement, ce qu'on peut prédire dans les quelques années à venir aussi, c'est notre démographie. Nous allons atteindre un pic démographique de quelque 10 milliards d'humains dans 30 ou 50 ans. L'essentiel de la croissance sera en Afrique. Or, notre impact carbone sur la planète varie d'un facteur 100 selon si l'on est européen, américain ou si nous vivons en Afrique. Donc, pour vivre bien plus nombreux sans détruire encore plus la planète, il est indispensable que les habitants des pays les plus consommateurs de ressources fassent leur transition vers une consommation plus en adéquation avec le futur de la planète. Bref, une certaine solidarité pour les générations futures. Nous sommes les héritiers des générations passées, soyons maintenant solidaires des générations futures.
Voilà, un message de solidarité pour cette dernière chronique. On était très heureux de passer cette saison avec vous, Evelyne. Merci infiniment. Et puis pour celles et ceux qui voudraient prolonger les découvertes dont on a parlé justement tout au long de l'année, Eh bien, je rappelle que vous êtes l'autrice de ce livre, L'Odyssée des gènes, 7 milliards d'années d'histoire de l'humanité révélée par l'ADN, et c'est chez Flammarion. Merci beaucoup, Evelyne.
À bientôt, Evelyne.
Merci.
À demain, Camille.
Très bon après-midi.
Car demain, ce sera l'heure du club et ce sera la dernière émission de la saison avant de partir en vacances.